C'était au frère Sam de commencer, et il commença après avoir échangé une bonne prise avec son partenaire. Il fallait le voir. Le corps ni trop droit ni trop incliné, la tête demi-tournée de manière à frapper sa boule à l'endroit juste, les mains placées l'une près de l'autre sur le manche du maillet, la gauche au-dessus, la droite au-dessous, les jambes fermes, les genoux légèrement pliés pour contrebalancer l'impulsion du cou, le pied gauche en face de la boule, le pied droit reporté un peu en arrière. Un type accompli du gentleman croqueteur. Alors le frère Sam leva son maillet, en lui faisant doucement décrire un demi-cercle, puis il frappa la boule placée à 18 pouces du foc ou piquet de départ, et n'eut pas à user du droit qui lui appartenait de recommencer 3 fois cette première opération. En effet, la boule adroitement lancée passa sous le premier arceau, ensuite sous le deuxième. Un autre coup lui fit franchir le troisième et ce ne fut qu'à l'entrée du quatrième qu'elle prit un peu trop de fer et s'arrêta. C'était magnifique pour un début. Aussi, un très flatteur murmure courut-il parmi les spectateurs qui se tenaient en dehors du petit fossé de l'air gazonné. Au tour d'Aristobulus Ursiclo de jouer. Ce fut moins heureux. Maladresse ou malchance, il dut s'y reprendre 3 fois pour faire passer sa boule sous le premier arceau, et il manqua le second. « Il est probable, fit-il observer à Miss Campbell, que cette boule n'est pas parfaitement calibrée. Dans ce cas, le centre de gravité, placé excentriquement, l'a fait dévier de sa course. À vous, oncle Sib !» dit Miss Campbell sans rien écouter de cette scientifique explication. Le frère Sib fut digne du frère Sam. Sa boule passa 2 arceaux et s'arrêta près de la boule d'Aristobulus Ursiclo qui lui servit à franchir le troisième après qu'il l'eut roqué, c'est-à-dire frappé à distance. Puis il roqua de nouveau le jeune savant, dont toute la physionomie semblait dire « Nous ferons mieux que cela ». Enfin, les 2 boules ayant été mises en contact, il posa le pied sur la sienne, il la poussa d'un vigoureux coup de maillet et croqua la boule de son adversaire, c'est-à-dire que par un effet de contre-coup, il l'envoya à 60 pas bien au-delà du fossé limitatif. Aristobulus Ursiclo dut courir après sa boule, mais il le fit posément, en homme réfléchi, et il attendit dans l'attitude d'un général qui médite un grand coup. Miss Campbell prit la boule verte à son tour et passa adroitement les 2 premiers arceaux. La partie continua dans des conditions très avantageuses pour les frères Melville, qui s'en donnaient de roquer et de croquer les boules adverses. Quel massacre ! Ils se faisaient de petits signes, ils se comprenaient d'un coup d'œil sans avoir même besoin de parler, et finalement, ils prenaient l'avance à la grande satisfaction de leur nièce, mais au grand déplaisir d'Aristobulus Ursiclo. Miss Campbell, cependant, se voyant suffisamment distancée 5 minutes après le début de la partie, se mit à jouer plus sérieusement et montra beaucoup plus d'habileté que son partenaire, qui ne lui épargnait pourtant pas les conseils scientifiques. « L'angle de réflexion, lui disait-il, est égal à l'angle d'incidence, et cela doit vous indiquer la direction que doivent prendre les boules après le choc. Ils font donc profiter, mais profitez vous-même, lui répondit Miss Campbell. Me voici, monsieur, 2 arceaux en avant de vous. » Et en effet, Aristobulus Ursiclo restait piteusement en arrière. 10 fois, il avait déjà tenté de franchir le double arceau central sans y parvenir. Il s'en prit donc à cet ustensile et le fit redresser. Il en modifia l'écartement et tenta de nouveau la fortune. La fortune ne lui fut pas favorable. Sa boule heurta chaque fois le fer et ne parvint point à passer. En vérité, Miss Campbell aurait eu le droit de se plaindre de son partenaire. Elle jouait fort bien, elle, et méritait les compliments que ne lui ménageaient point ses 2 oncles. Rien de charmant comme de la voir se livrant tout entière à ce jeu, si bien fait pour développer les grâces du corps. Son pied droit à demi levé du bout, afin de maintenir sa boule au moment de croquer l'autre. Ses 2 bras coquettement arrondis lorsqu'elle faisait décrire une demi-circonférence à son maillet. L'animation de sa jolie figure légèrement inclinée vers le sol, sa taille qui se balançait d'un mouvement délicieux, tout cet ensemble était adorable à regarder. Et cependant, Aristobulus Ursiclo n'en voyait rien. On avouera qu'il enrageait, le jeune savant. En effet, les frères Melville avaient maintenant une avance telle qu'il serait bien difficile de les rattraper. Et cependant, les aléas du jeu de croquet sont si inattendus qu'il ne faut jamais désespérer de la victoire. La partie continuait donc dans ces conditions inégales, quand un incident se produisit. Aristobulus sur Cyclo trouva enfin l'occasion de roquer la boule du frère Sam qui venait de repasser l'arceau central devant lequel il était, lui, obstinément retenu. Véritablement dépité tout en s'efforçant à rester calme aux yeux de l'assistance, il voulut faire un coup de maître et rendre l'appareil à son adversaire en l'envoyant hors des limites de l'aire du jeu. Il posa donc sa boule près de celle du frère Sam, il assura son adhérence en tassant l'herbe avec le plus grand soin, il appuya dessus le pied gauche et décrivant une circonférence presque entière afin de donner plus de force au choc, il fit rapidement tournoyer son maillet. Quel cri lui échappa! Ce fut un hurlement de douleur. Le maillet mal dirigé avait atteint non la boule, mais le pied du maladroit et le voilà sautillant sur une jambe en poussant des gémissements très naturels sans doute, mais quelque peu ridicules. Les frères Melville coururent à lui. Heureusement, le cuir de sa bottine avait amorti la violence du coup. La contusion était sans gravité. Mais Aristobulus sur Cyclo crut devoir expliquer ainsi sa mésaventure. « Le rayon figuré par son maillet, dit-il, en professant, non sans quelques grimaces, a décrit un cercle concentrique à celui qui aurait dû raser tangentiellement le sol, parce que j'avais tenu ce rayon un peu trop court, de là ce choc. Et alors, monsieur, nous allons cesser la partie ?» demanda Miss Campbell. « Cesser la partie ?» s'écria Aristobulus sur Cyclo. Nous avouer vaincus? Jamais! En prenant les formules du calcul des probabilités, on trouverait encore que...
Soit, continuons,
répondit Miss Campbell. Mais toutes les formules du calcul des probabilités n'auraient donné que bien peu de chance aux adversaires des deux oncles. Déjà, le frère Sam était rover, c'est-à-dire que sa boule, ayant franchi tous les arceaux, il avait touché le Bessan, ou piquet d'arrivée, et que son jeu ne consistait plus qu'à venir en aide à son partenaire en croquant ou roquant toutes les boules à sa convenance. En effet, quelques coups après, la partie était définitivement gagnée et les frères Melville triomphaient, mais modestement, comme il convient à des maîtres. Quant à Aristobulus sur Cyclo, en dépit de ses prétentions, il n'était même pas parvenu à franchir l'arceau central. Sans doute, Miss Campbell voulut alors paraître beaucoup plus dépitée qu'elle ne l'était réellement. Et d'un vigoureux coup de maillet, elle frappa sa boule sans trop en calculer la direction. La boule s'élança hors du périmètre circonscrit par le petit fossé du côté de la mer, s'enleva en rebondissant sur un galet et, comme eût dit Aristobulus sur Cyclo, sa pesanteur multipliée par le carré de la vitesse aidant, elle dépassa la lisière de la grève. Coup malheureux! Un jeune artiste était là, assis devant son chevalet en train de prendre une vue de la mer, bornée par la pointe méridionale de la rade d'Aubagne. La boule atteignant la toile en son plein, tacha sa couleur verte de toutes les couleurs de la palette qu'elle frôla en passant et renversa le chevalet à quelques pas de là. Le peintre se retourna tranquillement et dit « D'ordinaire, on prévient avant de commencer un bombardement. Nous ne sommes pas en sûreté ici. » Miss Campbell, ayant eu le pressentiment de cet accident, avant même qu'il ne se fût produit, avait couru vers la grève. « Oh, monsieur, dit-elle en s'adressant au jeune artiste, veuillez me pardonner ma maladresse. » Celui-ci se leva, saluant en souriant la belle jeune fille toute confuse qui venait s'excuser. C'était le naufragé du gouffre de Corrivrecane.